Donc ce chiffre est dédié à la leçon de l'âme de Karen Ruth Lane, Zechron Alevracha, la question de Benjamin.
Peut-on dealer avec Dieu?
Dealer. Marchander, marchander, en bon français, un contrat, le donnant-donnant. C'est ça? C'est en donnant-donnant, tu veux dire?
Non, mais pas donnant-donnant. Je veux dire, voilà, je fais ça sans contrepartie, pendant une certaine période, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et ensuite on sait très bien que c'est comme voilà, un contrat gratuit. Ou...
Alors que tu es obligé de le faire ou que tu n'es pas obligé de le faire d'après la Torah? Bon, deux mots, regarde, on va parler. Alors, il y a trois questions dans ta question. Est-ce que je peux faire une chose et en contrepartie demander autre chose? Non. Dieu ne nous doit rien et je peux investir sans recevoir, sans... C'est certain que tout ce que j'investis, il y aura une récompense. Mais je ne peux pas dire je veux la récompense comme ci, comme ça et comme ça. À part une chose, c'est marqué au Bechanouni Bazé. Vous pouvez m'éprouver à ce sujet-là. C'est donner le maaser. Le maaser, 10% de ses revenus. On peut faire une mitzvah et demander en contrepartie recevoir quelque chose. C'est marqué que celui qui dit je donne cet argent de tzedaka pour que mon fils vive, pour que j'aille au Lamaba, il appelle tzadik. S'il dit je donne et il ne demande rien en contrepartie, il appelle chassid. Chassid, c'est plus que tzadik. Un homme pieux, c'est plus que ce qu'on nous demande. Tzadik, c'est faire ce qu'on nous demande. Tu peux donc, dans le cadre de ce qu'on nous demande, tu peux dire je donne une pièce, en contrepartie je veux ça et ça et ça. Mais tu sais bien que ce n'est pas garanti. Tu demandes, on ne te doit rien. Il y a un cas où on te doit, c'est donc le maaser, que si tu donnes le maaser, alors c'est promis que tu ne seras pas pauvre. Si tu donnes le chomesh, un 20%, un cinquième, c'est promis que tu t'enrichis. Et on voit que les gens font ça et restent pauvres ou ne s'enrichissent pas. Hein. Alors, les commentateurs, ils ont dit, oui, ça c'est en normal. Mais des fois, quelqu'un, par exemple, il est redevable, il doit mourir. Elle donne une somme en tzedaka. À cause de cela, on a commuté, grâce à la tzedaka, sa mort en pauvreté. Donc, on ne peut pas maintenant, parce que tu as donné de l'argent, le maaser, que tu deviennes riche. Dis merci que tu n'es pas mort. Des fois, il y a des péchés qui empêchent. Des fois, il y a toutes sortes de raisons qui ont été données. C'est-à-dire que normalement, ça devrait marcher. Mais étant donné qu'on ne sait pas très bien qui nous sommes et quel est notre bilan par rapport à Dieu, donc ce n'est pas forcément que ça marchera vraiment. Mais on a le droit d'agir dans ce sens-là et de vouloir qu'il y ait cela. Maintenant, éprouver Dieu vraiment et dire « J'ai fait, ça n'a pas marché, donc Dieu, t'es pas OK. » Non. Parce que lui est toujours OK, c'est nous qui ne sommes pas OK. Ça, c'est au niveau du deal qui est donnant-donnant. Maintenant, dans ta question, il y a une deuxième question qui, elle, se partage en deux, donc deux et trois, qui est, moi, je ne veux rien en retour. Mais je fais un deal, c'est-à-dire que je m'engage à faire un truc, pas pour toujours. Alors, il y a deux cas possibles. Ou je m'engage à faire une chose qui n'est pas obligatoire. Par exemple, prenons un exemple. Voilà. Quand on sort des toilettes... J'en profite pour rappeler ici une chose que beaucoup de gens ne savent pas, hélas, à la yeshiva. Quand on sort, quand quelqu'un met la main dans les toilettes, même un doigt dans les toilettes, un petit doigt dans les toilettes, il doit se laver les mains.
Les deux?
Si possible, les deux. Si possible, les deux.
Le lavabo, il est chez nous, il est dans les toilettes.
Alors, le lavabo est dans les toilettes, et beaucoup de gens, à cause de cela, se lavent les mains dans les toilettes, se disant que quand ils sortent des toilettes, ils ont les mains propres. Ils se sont lavés les mains dans les toilettes. Mais non, vu qu'étant dans les toilettes, tu as déjà lavé les mains, même si tu n'as pas fait tes besoins, le fait de mettre le petit doigt dans les toilettes, ça t'oblige à faire un tata daim, à te laver les mains.
Salle de bain,
non. Baignoire, oui. Salle de bain, non. Au-dessus de la baignoire, oui. Quelqu'un, il a mis sa main au-dessus de la baignoire, c'est comme s'il l'a mis dans les toilettes. D'accord? Que dans les, même si c'est la cuvette est couverte, que dans les cas extrêmes. Alors, on autorise, on dit que les toilettes aujourd'hui, vu que c'est... certains avis, on peut compter là-dessus, disent que c'est l'endroit de la cuvette qui est les toilettes. Donc, si tu as mis la main dans les toilettes sans le mettre au-dessus de la cuvette, tu n'es pas dans les toilettes, mais c'est un avis très minoritaire. Donc, c'est dans les cas vraiment, on n'a pas le choix. Tu es dans un hôtel, au 13e étage Shabbat, et il n'y a pas de lavabo que dans le lobby. D'accord? Il faut descendre en bas, se laver les mains le matin. Alors, tu laves les mains dans les toilettes, et tu dis comment tu te fais bien quand tu as shahar, etc. Dans ta chambre, bien que Tu sors des toilettes avec les mains impures vu que tu étais dans les toilettes. Mais ici, à la yeshiva, il y a des lavabos aussi hors des toilettes. Donc, on peut se laver les mains, par exemple, le matin quand on se lave les mains dans les toilettes, parce que ça, on fait passer l'impureté de la nuit. Mais après, on considère qu'on a les mains encore impures à cause de celle des toilettes. Donc, il faut se laver les mains impérativement hors des toilettes.
C'est la bracha
quand,
alors ?
La bracha, quelle bracha ? L'état de daim, par exemple. On la fera uniquement quand on fait une état de daim hors des toilettes.
Non, comme là, dans l'histoire, je vous avais donné dans la yeshiva, quelqu'un se lève, il fait dans les toilettes pour ne pas partir.
Voilà. Voilà.
Ça, il refait dehors. On l'a fait quand la bracha ?
Après la deuxième fois. Après la deuxième fois. Ouais, ouais.
On fait deux fois la même chose avec le bénit.
Ouais, ouais. Les gens normaux, quand le matin, ils savent comme ça. D'accord. Petite parenthèse au niveau de la question de Benjamin, pour rentrer maintenant des considérations ilhatiques. Un type normal se lève le matin, il a besoin de l'eau aux toilettes. Ayant besoin de l'eau aux toilettes, c'est pas séant de faire une bracha maintenant. Alors, mais d'un côté, il peut pas ne pas se laver les mains, parce qu'on peut pas faire quatre pas sans se laver les mains. Donc, il va jusqu'au lavabo, s'arrêtant tous les un peu moins de quatre pas. Enfin, pas quatre pas, deux mètres. Tous les moins de deux mètres, il s'arrête. Et il se lave les mains 6 fois par alternance. 3 fois sur chaque main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK ? Après, il fait rien. Il ne faut aucune bracha. Il va aux toilettes. Il s'est dégagé. Là, il vient de nouveau au lavabo. Il se lave les mains. Le lavabo qui est hors des toilettes. Hors des toilettes. Il se lave les mains 6 fois. Et il fait la bracha de Neklatadai. Après, il fait la Shariatsar. Et il rajoute aussi Elokai Neshama juste à côté. D'accord ? 3 brachotes. Je répète tout. Il se lève le matin, il dit Modéan Falmechacha avec Ayam. Ok. Il ne touche pas les orifices, il a les mains impures. Il marche jusqu'au lavabo en s'arrêtant tous les moins de 2 mètres. Il arrive au lavabo qui est dans les toilettes par exemple. Il se lave les mains par alternance 6 fois. Il s'essuie les mains, il ne dit rien. Il fait ses besoins et là il se relave les mains dans un lavabo qui est à l'extérieur des toilettes.
Sans s'arrêter tous les 2 mètres.
Sans sortir les deux mains, c'est fini. Une fois qu'il s'est lavé les mains, il n'y a plus l'impureté de la nuit. Il y a une autre impureté, celle des toilettes. Il est dans les toilettes. Il peut marcher avec l'impureté des toilettes sur les mains. Donc il marche, il trouve un lavabo qui est hors des toilettes. Il se lave les mains 6 fois de suite avec l'ustensile et il fait 3 brachot. Alin tatadaim, al shariatsar, elokan yashama. L'ablution des mains, quand on se lève le matin, il y a une impureté qui est dessus qui ne part que si on s'est lavé les mains 6 fois de suite. Et pas une de moins. Le Gaon de Vilna, il dit 8 fois de suite.
Ouais, il y a des mecs qui font une fois d'un coup et non deux fois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est possible 7, 8. C'est ça, ça c'est tout. Ça c'est pour là, le matin quand tu te lèves. Maintenant, la journée, quand on va aux toilettes, et quand on sort, ou même si on met le petit doigt dans les toilettes, d'accord ? Il y a 3 choses. Du point de vue essentiel de la loi, si on se passe les mains sous le robinet, il y en a qui disent que ça va. Le mieux, c'est passer sous le robinet 3 fois. 1, 2, 3, 4, sous le jet du robinet. Ça, c'est sans keli. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Le top, si on veut vraiment faire encore mieux, avec un keli. On remplit l'ustensile et on fait 6 fois par alternance. OK ?
Ah, il y a un problème dans ce que vous dites, c'est que je ne me suis pas encore habillé. Donc, c'est-à-dire qu'après, je me suis habillé, il faut que je repasse des petits lacs ?
Alors, il y en a qui disent que tu fais ça avant de t'habiller, comme j'ai dit. Il y en a qui disent aussi, non, tu te laves les mains en sortant des toilettes ou pas, peu importe, d'accord ? Tu t'habilles, et après, quand tu es entièrement habillé, tu te laves les mains, et là, tu fais la bracha. Les deux sont bons. Les deux sont bons.
Il y a un autre problème, hein. Parce que si on se lève et qu'on va dans les toilettes, on fait la première ablution, et qu'on fait nos besoins,
oui.
On est toujours entamé, puisqu'on est toujours...
Oui, mais tu n'as plus l'impureté de la nuit, tu as une autre impureté, celle des toilettes. C'est différent.
On peut faire nos besoins avec l'impureté des toilettes ?
Ouais, comment tu fais pour être dans les toilettes sans avoir l'impureté des toilettes ? C'est un peu difficile.
Il n'y avait pas un semaine pour rester un certain temps avec l'impureté des toilettes ? Pour rester, tu vois, faire tout ce qu'on a à faire, on va toucher, on a nos chaussures,
nos... C'est pas bien parce que t'es impur, mais...
Il y a un semaine de...
Non. Tu peux pas dire, tu peux pas...
Que moi j'ai des trucs à faire, je vais avoir les mains impures, je peux rester avec.
Ouais, mais c'est dommage parce que tu peux pas dire des paroles de Torah, pas répondre à main, c'est un problème.
Et après quand on se chausse, on est obligé de refaire l'ablution.
Oui, une fois qu'on touche les chaussures, moi le matin, par exemple, je m'habille, enfin moi donc je fais les tétés d'aïm la première fois, comme je vous ai raconté, d'accord. Deuxième fois, après en sortant des toilettes, je fais les brachot, tout berkot hashachar matin, etc. Après, je m'habille. Quand je m'habille, je fais en sorte de pas toucher ma chair. Et quand je mets les chaussures, ma chair, la chair de ma chair.
D'accord, parce qu'il faut refaire les
chairs. Parce que si on touche la chair de son corps, les parties qui sont cachées, il faut deux fois de nouveau se laver les mains.
Que les parties qui sont cachées. Si on se rhabille, il faut qu'on refasse les chairs.
C'est pour ça qu'il s'est dit que si on se rhabille, il faut refaire les chairs. Parce que des fois, quand on s'habille, on se touche en passant. On touche la cuisse, on touche la poitrine, d'accord. Tu fais attention. Je n'ai pas touché ta chair, tu n'as pas besoin. C'est comme que je fais, je ne vais pas me laver les mains encore une fois, je suis pressé. Donc je m'habille sans toucher ma chair. Et même quand les chaussures, je ne les touche pas directement. Je prends mon pyjama, je prends mes chaussures avec le pyjama, et je mets les pieds dedans, et voilà, terminé. D'accord ? Comme ça, pas besoin de se relaver les mains. Si quelqu'un a touché ses chaussures ou a touché sa chair, il se relavera les mains encore une dernière fois, avant la prière. Parce qu'avant la prière, ça va les mains. Hein ?
On ne se douche pas trois fois, on ne se douche pas directement.
Se doucher ?
C'est une façon de dire pour enlever l'impureté. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va se toucher le corps comme ça, c'est considéré comme impureté.
Chaque fois que durant la journée, quelqu'un touche une partie intérieure de son corps, ça veut dire plus bas que le cou, plus haut que le coude, dans tout le corps, parce que c'est les parties qui sont cachées, il doit se laver les mains. Pas forcément trois fois avec un keli, avec un peu d'eau, parce qu'on parle maintenant d'une saleté, pas d'une impureté. Avant la prière, il faut aussi, et les gens ne le font pas, mais c'est très dommage, et à Minra arrive, il faut aussi se laver les mains, avec un keli, avant la prière, sans bracha. Alors, le Ben Ishraï, il écrit que vu que cette partie-là, on la découvre toujours, mais les tefillines, il n'y a pas besoin, on parle de la moitié du bras, de la première moitié de l'avant-bras, cette partie est considérée comme découverte, pas besoin de se laver les mains. Certains poskim, des saisonnières, disent que oui. Donc on peut continuer sur Ben Ishraï, c'est un super grand décision, mais si tu veux vraiment être top, tu peux te laver les mains aussi après ça. Il fait comme ça un peu et hop, ça va.
Pourquoi on est marmire dans l'année sur ces règles-là de Nitilat et Yom Kippour par exemple, on n'a pas le droit de faire toutes ces règles-là?
Bien sûr qu'on a le droit, même chose, simplement. Simplement de faire, au lieu de faire sur toute la main, on fait que jusqu'à la liaison des phalanges avec la paume de la main, parce que les forces impures sont très faibles à Yom Kippour, et donc pas besoin de laver toute la main, parce qu'elles ne peuvent pas monter plus haut que la liaison. Elles ne viennent que sur les doigts. Donc on lave les mains que sur les doigts. Ok, donc on était. Comment t'es arrivé à tout ça?
Il y a des potes qui sont en plus, enfin des choses qu'on fait en plus et des choses qu'on fait.
Pour le Kelly, après,
alors quelqu'un, il a pris sur lui-même. Voilà, par exemple, lui, il se lavait les mains en sortant des toilettes, sous le lavabo, 6 fois par alternance. Et il décide maintenant de faire ça avec un Kelly, avec un ustensile. Il dit, je fais ça maintenant pendant 40 jours. Alors, d'abord, c'est important qu'il dise « blineder ». Tu vois, « blineder », ça devient obligatoire. C'est un vœu, c'est très grave de ne pas le faire. Et après 40 jours, il arrête. Il n'y a aucun problème. C'est bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça, c'est dans les choses donc non obligatoires par l'alakha. Maintenant, la question, c'est j'imagine que la question est plus dans ce cas-là. Quelqu'un est en train de faire tchouva. Et faire tout à la fois dans la Torah, c'est trop pour lui. Est-ce qu'il peut faire un deal avec Dieu, comme tu dis, de ne pas faire tout. Il avance à son rythme. Alors, oui et non. Officiellement, non. Officiellement, oui, c'est conseillé. Ça veut dire, un rabbin va te dire maintenant, écoute, je raconte une histoire, voilà, tu vas comprendre exactement de quoi il s'agit. Le plus grand rabbin de la génération, vers 1850, s'appelait le rabbin Israël Salanter. Un grand, grand, grand monsieur. Et il a appris, étant en Allemagne, il a appris qu'au nord de l'Allemagne, il y a un port, Hambourg, où là-bas une communauté juive importante, mais ils font Chilul Shabbat, ils ne font plus Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un port, et il y a des bateaux commerçants qui arrivent Shabbat, et eux, ils font des postes au port, ils doivent aller travailler, recevoir des marchandises, etc., écrire, payer, etc. Donc c'est des bons juifs, ils mettent les tefillines, ils vont Shabbat à la synagogue, mais après la daf, ou le tchoulin, d'accord, version allemande, alors, ou la choucroute de Vienne, je ne sais pas, d'accord, alors ils vont au port travailler. Bon, il est parti à Hambourg, il a reçu le dollar, tout ça, et on l'invite à parler, après la Kriyat HaTorah, le Shabbat matin, avant Moussaf, il y a toujours la dracha du Rav. Il demande, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas de Hambourg? Il y a un type qui a la main, oui, moi je viens de Düsseldorf, d'accord. Bon, non, je ne parlerai pas, je parlerai la semaine prochaine. Quand je de nouveau pose la question à quelqu'un qui n'est pas de Hambourg, non, tous sont de Hambourg. Ok, il monte et il dit, écoutez, tu comprends bien, ici vous ne faites plus Shabbat. Je comprends, c'est très difficile, il y a les aléas de la vie, l'obligation, on ne peut pas, etc. Mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu qu'il y a une melacha, 39 travaux à Shabbat, il y en a un que vous n'êtes pas obligé de faire. La melacha de Shrita. Shrita, c'est égorger. Pas besoin d'égorger lorsque tu reçois un bateau, d'accord, il n'y a rien à voir. J'ai bien revu, j'ai bien appris votre boulot. Alors on prend tous sur nous que dorénavant, le Shabbat, on ne fait plus la melacha d'égorger. Hein?
De toute façon, ils ne la font pas.
De toute façon, ils ne la font pas. Mais ils ont accepté. Donc déjà, c'est plus des... C'est pas que tout est permis Shabbat, on ne fait pas Shabbat. On fait à moitié Shabbat. Enfin, un 39e. Bon. Shabbat d'après, j'ai bien réfléchi, et le fait de planter, pas besoin de planter, on s'est mancé Shabbat quand on est au port. On prend tout maintenant, on fait attention. Mais attention, c'est beaucoup de choses. On s'est mancé, c'est aussi faire pousser. Donc on ne peut pas arroser maintenant, on ne peut pas faire une tête d'aigle sur de la pelouse, on ne peut pas faire un pique-nique dans la nature, dans la forêt de Hambourg, où on fait une sur des plantes. Donc déjà, ça limite un peu plus. Arroser les géraniums, on ne peut pas, d'accord? Troisième Shabbat, il leur a dit, allez, donnez-moi quelque chose maintenant. Boulanger, la cuisson, on peut ne pas cuire. On accepte sur nous tous maintenant qu'on ne va plus cuire Shabbat. Ça fait attention, c'est tout ce qui va avec. D'accord, donc c'est la plata, c'est pas sortir du frigo et mettre sur le feu, etc. Bon, et comme ça, lentement, 39 Shabbatot, et à la fin, c'est un peu plus dur, c'est plus écrire, c'est plus machin, mais le type fait Shabbat à 99%, le petit pourcent qui reste difficile, avec le mérite du fait qu'il n'ait plus sur lui Shabbat, parce que c'est un mérite énorme. Donc dans le ciel, on va l'aider. Pourquoi c'est dur la tchouva? Pourquoi on peut faire tout d'un coup? C'est pas qu'une question d'habitude. Tu as des résistances spirituelles très grandes. Qu'on n'est pas capable de casser. On n'est pas capable de casser. Il faut lentement. Alors, comment on va faire? On va. C'est comme s'il y a l'obscurité qui nous empêche et la lumière. Le fait de commencer à faire t'amène de la lumière. Et plus il y a de lumière, moins il y a d'obscurité. Au bout d'un moment, c'est facile. Tac! Le dernier petit fortin de l'obscurité, tac! On le met dehors facilement. Mais si on veut prendre d'un coup toute la forteresse, impossible. Donc, on doit aller lentement. Et ce type de deal. Alors c'est très dur, un rabbin ne te dira pas, écoute, tu as le droit de faire 38 melachot Shabbat, juste une. Tu ne fais pas. Il faudrait que le rav, il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas de Hambourg? Ils ne voulaient pas qu'on entende que le rav, il dit, ce n'est pas une chose qu'on peut dire, je t'autorise tout à part ça. Impossible. Mais, dans une technique de travail, c'est conseillé de travailler ainsi.
Mais dans cette histoire, le juif a fini par faire les 39 melachot. Ouais. Supposons qu'il serait arrêté au milieu du chemin.
Ouais.
Il aurait commencé, voilà, il aurait arrêté de planter, il aurait arrêté de cuisiner pendant Shabbat.
Ouais.
Et à un moment, il craque, il dit ça y est, c'est trop dur, je peux plus. Genre, est-ce que les premiers pas qu'il a fait, ils sont quand même.
C'est certain. Alors, c'est très bonne question. Ça, c'est le Chafetz Chaim qui écrit à propos de la Lashon Hara. Il dit que des gens n'osent pas prendre sur eux de faire attention de ne pas la Lashon Hara parce que c'est tellement dur qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tenir. Et à quoi ça ressemble? Il y a une vendeuse qui vendait une vieille dame, qui vendait des pommes au marché. Il y avait une caisse de pommes. Et un voyou qui passe, qui prend toutes les pommes, et tchic, il renverse la caisse, toutes les pommes qui partent comme ça en roulant dans le marché. Puis elle se met à pleurer. Il y a un type sage qui passe, je dis, ok, tu pleures, mais tu as quelques pommes que tu peux ramasser. Ah, je pleure, mes pommes, mais ramasse. Et quelques-uns sont allés comme ça, ils ont commencé à ramasser, ils ont réussi la moitié des pommes à récupérer. Qu'est-ce qui est mieux? De pleurer et dire, je peux rien faire, toutes mes pommes sont parties, ou récupérer ce qu'on peut récupérer? C'est clair que c'est mieux. Donc prends sur toi de ne pas parler de la chonara. Et la moitié de la chonara, tu as à retenir, bah, c'est énorme. Mais vaut une demi-caisse que rien. En Torah, très souvent, le Sera vient te dire, écoute mon cher ami, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es tellement tordu. On ne peut pas, c'est pas compatible faire Shabbat, aller en boîte, moi c'est Shabbat. C'est pas compatible de mettre talit katan et puis d'aller avec des filles. C'est pas compatible de mettre tefillin et manger du porc. C'est faux. Compatible et compatible. C'est clair qu'Hachem, il veut pas que tu manges du porc, il veut pas que tu ailles avec des filles, il veut pas que tu ailles en boîte au Motsé Shabbat. C'est clair, c'est interdit. Mais c'est pas parce que c'est interdit qu'il dit, alors moi si c'est interdit, bah, je peux pas non plus prendre un peu de bien. Et d'ailleurs, tout le monde vit comme ça. Même le plus grand sadique, il n'est pas parfait. Alors vu que je suis pas parfait, donc il y a un truc qui va pas, donc c'est ou tout ou rien. Le tout, je peux pas, donc c'est rien. C'est pas logique. Prenons l'autre sens. Un type, il est super assimilé. Mais. Je ne sais pas moi, Kippour, il jeûne. Même pas il jeûne. Kippour, il vient à la synagogue écouter la Neïla. D'accord? Rosh Hashanah, il vient écouter le Shofar, tout ce qu'il fait. D'accord? Ou bien même pas ça, il fait la Brit Mila à ses enfants. Puisqu'il est juif, il dit, mon cher ami, c'est pas compatible. Ou la totale, tu as la yeshiva ou pas le brit mila, c'est pas compatible. Or tu vois que les gens ne vivent pas comme ça. Donc cet argument que vient l'Alsaire te dit, c'est pas compatible, c'est des bêtises, surtout pas écouter. Compatible et compatible. Et par le mérite du fait qu'on fait déjà une petite partie, après on arrivera aussi à éjecter la mauvaise partie. En commençant son Shabbat, on n'ira plus monter Shabbat en boîte. En commençant à mettre les tzitzit, et ben qu'est-ce que je vais dire, on mangera plus de porc, etc. C'est tout à fait compatible. C'est comme ça qu'il faut agir, parce qu'on ne peut pas tout prendre d'un coup. Et Sarah, il a peur qu'on commence à prendre un peu. Au contraire, prends le peu que tu prends, c'est une valeur énorme. Au moins, tu montres à Dieu que tu veux avancer.
Mais on fait une grosse avéra, ça sert à rien de...
Ça sert. Ouais. Tout sert.
Il y a une personne qui mange du pain à Pessah, bon, je prends un exemple, ou quelqu'un qui avait écrit pas même Marie Traditionnelle.
Ouais.
Après, on va dire, viens mettre les tefilines.
Oui, très bien. Un type, ce type-là...
C'est carré, ça sert à rien.
C'est un tordu, d'accord. Et ça, il fait l'adultère, il mange du porc, il mange des escargots, des scorpions, de l'âne, que ça. D'accord. Et que ça. J'ai un élève ici, il m'a dit, moi, target les femmes mariées, que les femmes mariées. D'accord. Bon, il a fait tout à lui aussi, bon, Hachem. Il y a eu des gens comme ça, d'accord.
Mais quel moment,
Alors, attends, je vais répondre à sa question. Ce type-là, mais lui, les tefilines. Où est le rapport de ne pas faire? Je ne comprends pas. Où est le rapport? Et alors? Mieux vaut zéro ou mieux vaut un peu, ce type-là?
C'est comme si c'était quelqu'un qui vient de tuer, je ne sais pas comment, sur les passages piétons, parce que voilà, il faut être un peu...
Exactement, très bien.
Mais qui a intérêt, c'est ridicule.
Ce type-là, un beau jour, il arrive au Lamaba, on va juger sur chaque seconde de sa vie, sur chaque acte. On va prendre ma première mitzvah. Tu tueras point, il a tué. Pas adultère, il a fait l'adultère. Il arrive à Tchiline. J'ai mis les Tchilines. Très bien, bah, ça, tu gagnes, tu as une lumière. Pourquoi il soit aussi obscur là-bas? Je ne comprends pas. Pourquoi il soit obscur partout, tu lui dis?
Pour cette mitzvah, il va aller
au Gan Eden.
Ouais. Pour un carré qui s'annule.
Chaque, mais non. Alors, on reprend les choses à zéro. Il y a deux comptes qui n'interfèrent pas du tout. Ils peuvent interférer dans ce monde. Ça veut dire que je fais une avéra, ça peut m'affaiblir dans mon envie de faire des mitzvot. Ça peut casser ma puissance des mitzvot qu'il y a en moi. Mais au niveau du compte final dans Olam Haba, d'accord, chaque mitzvah que tu as fait, elle est là, elle est absolument ineffaçable. Une mitzvah que tu as faite, elle est faite. Une avéra que tu as faite, elle est faite aussi. Et ce moyen d'effacer la mitzvah ou l'avéra, c'est faire tchouva. Tu as fait une avéra, sur terre tu fais tchouva, on l'efface. Une mitzvah aussi, on peut faire tchouva sur une mitzvah à l'envers. J'ai marqué que toi, tchouva à l'envers, ça veut dire quoi? Dieu, il permet que si quelqu'un regrette d'avoir fait une avéra, on considère comme s'il n'a pas fait. Il dit, je reconnais, je regrette que je fais, je prends sur moi d'arrêter. Vu que Dieu est juste, cette puissance du regret est valable aussi du côté des mitzvot. Quelqu'un dit, j'étais un an à la yeshiva. Qu'est-ce que je regrette? J'ai perdu un an à étudier des textes idiots avec des barbus crétins dans un endroit paumé. Un an de ma vie perdu. Je regrette, plus jamais je ferai ça. Et voilà là-bas, et là, il voit que la yeshiva, c'est la plus belle année de sa vie. Mon cher, hein, néni, rien du tout. T'as fait tchouva, t'as regretté, t'as machin. Non, mais enfin, je parlais comme ça. Hey, mon cher ami, t'étais sincère. Ça, toi, la riche note. Celui qui regrette les choses qu'il a fait auparavant, aussi, en mitzvot, il peut effacer. Mais s'il n'a pas fait ça, toutes les mitzvot et la vérote sont là. Maintenant, il y a un avantage aux mitzvot, c'est quoi? Quand on fait une mitzvah, on crée une réalité infinie. Parce qu'on a réalisé un désir de Dieu. On a créé en nous une réalité divine qui est éternelle. C'est ineffaçable et c'est toujours là. Le péché aussi, il est là. Mais il est effaçable. Comment? C'est pas qu'il est effaçable. Le péché, il est là. Mais quand on va purger, on va nettoyer, il y a toutes sortes de programmes post-mortem de purgatoire, de nettoyage des péchés. Une fois que tu as nettoyé, ben c'est propre, terminé. Donc quelqu'un, il purge les peines qu'il doit purger. Au bout d'un moment, tout est terminé. L'enfer s'arrête. Au moment, ça s'arrête. C'est dans le fini, parce que j'explique plus profondément. Quand quelqu'un il fait un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une réalité de mal. Mais le mal, il est fini. C'est que Dieu qui est infini. Le mal, il est fini. Il n'y a pas de mal infini.
Quand quelqu'un ne fait rien, il fait quelque chose de neutre.
Un moment, je vais finir, après tu vas poser l'exemple. Donc, maintenant, le mal, il est fini. Donc, alors qu'il est fini, son purgatoire, son nettoyage, il est aussi fini. Donc, au bout d'un moment, l'enfer s'arrête, et après on passe au paradis. Donc le type, il était le tordu dont j'ai parlé, qui mangeait des ânes. Alors, il va purger les ânes, les scorpions, les adultères, tout ça, machin. Au bout d'un moment, après beaucoup de temps, fini. L'acquis, je sors de prison. Ok, je vais où? Ben, au paradis. J'ai quand même fait quelques missions dans ma vie. Bon, ça, j'ai droit au paradis. Et un paradis infini.
Tous les juifs, donc, ils vont au paradis.
Ouais. Kol Yisrael Chelek Le'olam
Haba. Alors, le karet, il est où?
Le karet, c'est en attendant. C'est en attendant. En attendant, il est karet. Le karet, c'est ici sur Terre. C'est qu'en attendant, tu es retranché de ta source. Ça veut dire, tu n'as plus de flux divin. Tu es comme un animal. Tu es loin de Dieu. Tu es coupé. Hein? Tout est réparable. Tout est réparable. Tout. Absolument tout. Absolument tout, par la tchouva.
Par la
tchouva, tout est réparable par la tchouva. Tu avais des questions avant, oui.
Pour revenir à la question, est-ce qu'on peut faire un pacte avec HM? C'est pas possible.
Un pacte de quel terme? Dis-moi.
Je m'engage à faire ça, HM demain.
En contrepartie? Non. Non, il te doit rien.
Très bien. Et si. Ouais, à part pour le matin. Est-ce que je peux dire de faire ça à une personne qui n'est pas religieuse pour d'accord?
Et si ça marche pas?
C'est
mentir. C'est pas dire ça. Tu peux dire comme ça. Comme moi je dis aussi très souvent aux gens, écoute, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas les comptes. Je vais dire un truc. Aller avec Dieu, parce que le type, quand il te contacte, déjà, ça va pas très bien. Ça va pas très bien dans sa vie. Aller avec Dieu, en fin de compte, ça paye toujours que quand on va contre Dieu. C'est clair. Donc tu ne perds rien. Est-ce que ça va réussir à régler le problème? Je ne sais pas. Ça ira mieux. En fin de compte, c'est clair que ça ira mieux. Donc tu ne perds rien à faire ça. Au contraire, tu gagnes beaucoup. Voilà. Comment tu as gagné? Quand? J'ignore. Mais que tu gagnes, c'est clair. Et c'est vrai, ça c'est la vraie vérité.
On me dit souvent, fais ci et tu auras de la réussite dans ça, fais ça. C'est ce qu'on répète souvent ici ou même ailleurs. C'est toujours...
Ouais, on dit ça en tant que vœu, espérance, et qu'il y a des chances, beaucoup de chances que. Enfin, un certain pourcentage de chances que. Mais qui peut garantir ça? Qui peut garantir ça? On n'est pas le bon Dieu.
Si on résume, on est dans une dimension de surnaturel en fin de compte. C'est aller à se dépasser soi-même. C'est-à-dire que. Pour, par exemple, on est dans une société où on est bombardé par le Yatzer Hara, et donc quelque part, respecter toutes les halakhot, toutes les mitzvot, et aller dans la lignée de la vérité d'Hachem, c'est très très difficile. Donc on est dans cette dimension surnaturelle.
Absolument.
Concrètement se dépasser. Donc la question c'est, est-ce que quelque part, il faut être un peu illuminé, parce qu'on ne peut pas, il y a une réalité dans cette société.
Ah ouais, on est illuminé.
Malheureusement. Il y a une réalité. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas mariés.
Je veux dire, mon cher ami.
Très tardivement, et donc qui sont bombardés. Et donc, ouais,
il est déjà très tard, le cours doit finir. Mais en deux mots, regarde. Nous sommes juifs aujourd'hui. Ouais. Contrairement à des centaines de millions de nos ancêtres dont la descendance n'est pas restée juive, parce qu'on était capable de rester imperméable à l'influence de la société dans laquelle on était. On était illuminé. Illuminé, il persévère, il sera éternel. Le type qui vit avec son temps, il passe avec son temps. Celui qui ne vit pas avec son temps, il est anachronique, il est éternel. Baruch Adonai, Amen.